VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du vendredi 20 avril 2018, en direct de Washington, Idrissa Seydoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Sénégal, adoption de la nouvelle loi électorale malgré les manifestations de l'opposition hier.
Au Burkina Faso, l'adoption de la nouvelle constitution, un des sujets abordés par le président Roch Marc Christian Kabore et l'opposition hier à Ouagadougou.
En République démocratique du Congo, bilan de l'armée, après 4 ans de traque des groupes armés locaux et étrangers dans le Nord Kivu.
Le Pentagone estime que la Syrie conserve des capacités militaires chimiques résiduelles.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Sénégal, les députés ont adopté hier une nouvelle loi électorale dénoncée par l'opposition qui a fait état de dizaines d'arrestations lors de manifestations réprimées au gaz lacrymogène à moins d'un an de la présidentielle. Le point avec Jean-Roger Bion.
Le projet de loi qui impose le parrainage à tous les futurs candidats à la présidentielle a été adopté par 120 députés sur 165. Avec ce nouveau texte, les autorités affirment vouloir prévenir par souci d'économie et de meilleure organisation du scrutin une inflation du nombre de candidats à la présidentielle dans un pays qui compte près de 300 partis, rappelant la présence de 47 listes aux législatives de juillet 2017. Le but unique de cette forfaiture est évident aux yeux de tous, empêcher les candidats de l'opposition de se présenter, a affirmé l'opposition. Des incidents ont marqué le vote à l'Assemblée nationale au moment où le président Macky Sall, élu en 2012 et probable candidat à sa succession en février 2019, effectue une visite en France où il devrait être reçu aujourd'hui par son homologue français Emmanuel Macron. À Dakar, plus de 50 personnes ont été arrêtées, a affirmé à l'AFP. Mayoro Faye, le chargé de communication du Parti démocratique sénégalais PDS, le principal parti de l'opposition, dirigé par Abdoulaye Wade, président sénégalais de 2000 à 2012.
Au Burkina Faso, débat sur deux questions fondamentales, l'adoption de la nouvelle constitution et le vote des Burkinabés de l'étranger en 2020. L'opposition a été reçue hier par le président Roch Marc Christian Kabore pour en discuter. De Ouagadougou, le correspondant de VOA Afrique, Lamine Traoré.
L'échange a duré au moins 2 heures. L'opposition et le président du Faso ont discuté du mode d'adoption de la nouvelle constitution, soit par référendum, soit par la voie parlementaire. Rien, pour le moment, n'a été arrêté et les échanges devront se poursuivre sur cette question, surtout quand on sait que l'élection présidentielle de 2020, c'est pour bientôt. Sur le vote des Burkinabés de l'étranger en 2020, l'opposition est claire là-dessus. Zéphirin Diabré, chef de file de l'opposition.
Notre position, en tant qu'opposition politique, c'est qu'il faut finir définitivement avec les faux rendez-vous et que en 2020, il faut que les Burkinabés qui sont à l'étranger puissent voter et exprimer donc leur devoir civique.
Après l'opposition, une autre rencontre est prévue avec la majorité pour continuer d'échanger sur ces mêmes points. Une rencontre qui intervient au moment où le pays connaît une fronde sociale marquée par des grèves et des sittings de plusieurs syndicats. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, l'armée a dressé le bilan de 4 ans de traque de groupes armés locaux et étrangers dans le Nord Kivu, province de l'Est du pays. Selon les FRDC, 1101 éléments FDLR de la rébellion rwandaise ont été neutralisés et 234 membres des groupes armés Maïmaï tués. Plus de 1000 armes et munitions ont également été récupérées, nous dit notre correspondant à Goma, Charlie Kassereka.
La 34e région militaire, scindée en 2 zones opérationnelles, l'une s'est focalisée sur la rébellion des ADF en région de Beni, baptisée Sokola 1, et l'opération Sokola 2 pour traquer les FDLR et les groupes Maïmaï. 4 ans aujourd'hui, après le lancement de Sokola 2, un bilan riche selon les porte-parole de la 34e région militaire, l'officier Njike Kaiko, qui parle des 1101 FDLR neutralisés, ainsi que 234 membres des groupes armés tués, ajoutant que 1089 armes légères, bombes et munitions ont été récupérées par l'armée congolaise. Le major Njike Kaiko souligne que les opérations continuent sans donner un bilan quelconque sur les morts côté armée loyaliste, mais parle des 280 militaires de l'armée congolaise qui ont été transmis à la justice militaire pour manquement au droit humanitaire international. Ce bilan est présenté au moment où l'on parle de plus de 50 groupes armés toujours actifs et dans le Nord Kivu et qui sont pointés du doigt dans plusieurs camps de sécurité autour de la ville de Goma. À moins de 4 semaines, au moins 15 personnes ont été tuées et plusieurs cas de kidnapping suivis d'une demande de rançon sur les civils et même les prêtres catholiques sont rapportés. Les derniers cas en date est celui d'un étudiant porté disparu depuis maintenant 5 jours à Goma et ses ravisseurs demandent $50,000 américains à sa famille pour les relâcher. Charles Kasereka, Goma, VOA Afrique.
Un ancien chef de guerre libérien immigré aux États-Unis a été condamné hier à 30 ans de prison à Philadelphie, en Pennsylvanie. Mohamed Diabaté, surnommé Jungle Jabba, avait été reconnu coupable en octobre d'avoir caché aux autorités américaines son passé meurtrier pendant la guerre civile qui avait ravagé le Libéria de 1989 à 2003. Il avait menti d'abord pour obtenir l'asile en 1998, puis la résidence permanente. Diabaté commandait la faction Oulimo, perpétrant meurtres, viols, esclavage sexuel, mutilation et cannibalisme, selon les procureurs américains.
Au Soudan, le président Omar el-Béchir a limogé hier son ministre des Affaires étrangères, Ibrahim Gandour. Ce dernier s'était plaint des difficultés financières des diplomates soudanais en poste à l'étranger qui n'ont pas été payés depuis des mois.
Le Swaziland est devenu Iswatini, et ainsi en a décidé hier le roi Mswati III. Au 50e anniversaire de l'indépendance de ce pays d'Afrique australe, Marie Benson.
Eswatini signifie le pays des Swazi en langue Swati. Le nom Swaziland est un mélange des langues Swati et anglaises, donc un héritage de la colonisation selon Mswati III. Le roi a rappelé à Manzini, la deuxième ville du pays, que tous les pays africains avaient repris leur nom d'antan à l'indépendance et qu'il fallait donc faire de même pour le Swaziland. Ce petit pays, situé entre l'Afrique du Sud et le Mozambique, était sous protectorat britannique avant de devenir indépendant en 1968. Au pouvoir depuis 1986, Mswati III est souvent critiqué pour ses multiples violations des droits de l'homme et pour son train de vie dispendieux malgré la grande pauvreté de sa population.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le Pentagone estime que la Syrie conserve des capacités militaires chimiques résiduelles et pourrait encore lancer des attaques limitées, et ce, malgré les frappes occidentales du week-end dernier. Le point avec Abdourahman Dia.
La déclaration est d'un haut responsable du ministère américain de la Défense. Selon le général Kenneth McKenzie, le régime syrien a probablement disséminé dans tout le pays et sur divers sites des capacités chimiques lui permettant de lancer d'autres attaques. Mais il prévient Damas. Nous les surveillons et nous avons la capacité de les frapper à nouveau si nécessaire. Le 14 avril, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni ont bombardé 3 sites présentés comme liés au programme d'armement chimique syrien sans faire de victimes. Des frappes lancées en représailles à une attaque chimique présumée ayant fait au moins 40 morts le 7 avril à Douma, dans la banlieue de Damas. Toutefois, le général McKenzie n'a pas pu affirmer que les 3 sites abritaient bien des armes chimiques. Nos conclusions sont que les armes ont atteint leur cible. Nous avons atteint le degré de succès désiré contre ces 3 cibles et nous pensons qu'il y avait probablement du chlore et peut-être du sarin et peut-être même sur les 3 sites, a-t-il dit. Les images publiées par le Pentagone montrent que les 3 sites ont été totalement détruits.
Le président sud-coréen Moon Jae-in a déclaré que la Corée du Nord n'impose pas de conditions au prochain sommet avec lui et avec le président américain Donald Trump et qui porte sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne. S'adressant à des chefs d'entreprise hier à Séoul, M. Moon a précisé que les Nord-Coréens n'ont insisté sur aucune condition que les États-Unis pourraient rejeter, telle que le retrait des troupes américaines de Corée du Sud. Tout ce dont il parle, a-t-il poursuivi, c'est la fin des politiques hostiles contre la Corée du Nord, assorties de garanties sécuritaires.
L'ancien maire de New York, Rudy Giuliani, a rejoint l'équipe d'avocats du président Donald Trump, qui traite avec le procureur spécial Robert Mueller, chargé de l'enquête sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016. Monsieur Giuliani a expliqué hier au Washington Post ses raisons. « Je le fais parce que j'espère que nous pouvons négocier un règlement qui soit bon pour le pays » et parce que j'ai beaucoup de respect pour le président Trump et pour Bob Mueller. À noter que le président américain a eu des difficultés à recruter de nouveaux avocats depuis la démission du directeur de son équipe juridique, John Dowd, le mois dernier.
À Cuba, Miguel Díaz-Canel, en civil de 57 ans, a pris la relève hier de Raúl Castro comme président de Cuba engageant ce pays dans une transition historique qui s'inscrit toutefois dans la droite ligne du régime. Face aux députés qui l'ont élu à 99,83% des voix, Miguel Díaz-Canel s'est donné pour mandat de poursuivre la révolution cubaine dans un moment historique crucial, mais aussi les réformes économiques entamées par Raúl Castro dans le but, a-t-il dit, de perfectionner le socialisme.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
Le FMI propose une plateforme de dialogue pour éviter une guerre commerciale. C'est à la suite de l'escalade des tensions entre les États-Unis et la Chine. D'après Christine Lagarde, directrice générale du FMI, une guerre commerciale serait préjudiciable à l'économie mondiale tout entière. Elle a proposé d'offrir une instance de dialogue paisible et technique pour les décideurs économiques, notamment les ministres des Finances. Christine Lagarde a également estimé que les 189 États membres du FMI avaient tous intérêt à ce que le commerce fonctionne. Les autorités du Congo-Brazzaville ont convenu avec le FMI un programme pour relancer son économie. Mais l'accord soumet le pays à des exigences de gouvernance pour rompre avec les pratiques du passé. La directrice générale du FMI, Christine Lagarde, a toutefois précisé que cet accord devra encore être ratifié par le conseil d'administration du fonds. Ceci permettra de savoir exactement les financements et les conditions associées à ce programme. Celui-ci vise à promouvoir une croissance soutenue et inclusive, notamment en rétablissant la viabilité budgétaire et en améliorant la gouvernance. La Russie a saisi l'Organisation mondiale du commerce OMC dans le dossier des droits de douane américains sur les importations d'acier et d'aluminium. La Chine et l'Union européenne l'ont déjà fait. Les droits de douane supplémentaires sur les importations américaines d'acier et d'aluminium ont multiplié les frictions entre Washington et plusieurs de ses partenaires commerciaux.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le championnat reprend en République démocratique du Congo.
La Ligue nationale de football du Congo est revenue sur sa décision de suspendre le championnat national suite à l'interpellation de Constant Omari, président de la FECOFA, et ses deux vice-présidents pour corruption et détournement de fonds publics présumés. Cette nouvelle décision fait suite à la remise en liberté provisoire de Constant Omari dans la soirée du mercredi. Hier, il a été entendu par un magistrat et ses deux vice-présidents ont aussi été libérés.
Le mondial de Ben Amor n'est pas compromis.
Blessé le mois dernier lors du rassemblement en sélection, Mohamed Amine Ben Amor sera rétabli pour prendre part au Mondial 2018 avec la Tunisie. C'est du moins ce qu'a assuré le médecin des Aigles de Carthage, Souheil Chemli. Des nouvelles rassurantes alors que Youssef M'Sakni a d'ores et déjà déclaré forfait pour la compétition.
En Espagne, l'Atlético Madrid a raté le coche hier.
Et oui, Idrissa, l'Atlético Madrid a raté l'occasion de réduire son retard sur le leader, le FC Barcelone, en s'inclinant lourdement 3-0 sur le terrain de la Real Sociedad lors de la 33e journée de Liga. C'est la première fois depuis un mois que l'Atlético Madrid encaisse deux buts dans un même match. Cette 33e journée n'est décidément pas favorable au quatuor de tête puisque le leader barcelonais a été tenu en échec 2-2 au Celta Vigo, tout comme le troisième, le Real Madrid 1-1 devant l'Atlético Bilbao, alors que Valence, quatrième, a été battu à domicile 2-1 par Retafe.
Chelsea a repris espoir pour la fin de saison en Angleterre.
Chelsea, laborieux mais avec du caractère, a enchaîné hier un deuxième bon résultat en battant Burnley 2-1 en match en retard de la 31e journée de Premier League à 3 jours seulement de sa demi-finale de Coupe d'Angleterre dimanche contre Southampton. L'opération est plutôt bonne pour les Blues puisqu'ils reviennent aussi à 5 points de Tottenham, 4e et tenant de la dernière place qualificative pour la Ligue des Champions. NBA pour terminer avec vous Idrissa, les résultats des playoffs de la nuit dernière.
Philadelphie a battu Miami 128-108 et mène la série de victoires à 1. Joel Embiid a joué, eh bien, il a marqué 23 points. La Nouvelle-Orléans a battu Portland 119-102, menant la série 3-0. Golden State a de nouveau battu San Antonio 110-97, menant la série 3-0.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Tchad, le projet de révision de la Constitution déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale continue de susciter des réactions. Pour l'élite tchadienne, la modification de la Constitution actuelle, qu'elle qualifie de contrat social entre le gouvernement et le peuple, doit nécessairement être approuvée par référendum et non par l'Assemblée nationale. Notre correspondant à N'Djamena, André Kodma-Djingar, fait le point.
La rapidité avec laquelle le projet de loi constitutionnelle est engagé par le pouvoir montre à suffisance que la nouvelle constitution de la 4e République va passer comme une lettre à la poste sans débat contradictoire, car une trentaine de députés de l'opposition à l'Assemblée nationale boycottent les activités de cette institution jusqu'au 30 avril prochain. Les évêques du Tchad déplorent et expriment leur inquiétude de la manière dont le processus d'institution de la 4e République se déroule. Yves Alangomi est le secrétaire général de la conférence épiscopale du Tchad.
Ces processus risque de fausser gravement les règles du jeu démocratique car il porte en germe une grave division des cœurs entre les citoyens. Un changement fondamental de cette nature devrait se faire dans le respect de la Constitution qui dit dans son article 224 « La révision de la Constitution est approuvée par référendum ».
Pour Dr Sitaki Yumbatna, Béni, juriste et ancien chercheur à l'École nationale d'administration, il y a un déficit démocratique dans ce processus.
« Parallélisme de forme oblige, n'est-ce pas, sur le plan du droit ? C'est qu'une fois la Constitution de 96 a été adoptée par référendum, celle qui doit venir, n'est-ce pas, remettre en cause ne peut passer que par référendum. Ça, c'est les textes, n'est-ce pas, sur le plan juridique. Deuxième chose, on veut non seulement modifier la Constitution de 96, mais on veut changer également de république. Donc, ça dit changement de paradigme. Et là aussi, il faut expliquer le contexte. Parce que pour changer même d'une république, il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, des circonstances, n'est-ce pas, graves. Or là, on ne voit aucun événement majeur. Donc, il y a un problème, justement, de déficit démocratique. Parce que c'est les mêmes personnes qui ont rédigé la Constitution, c'est les mêmes personnes qui les ont adoptées en Conseil des ministres. Les mêmes personnes qui vont adopter ça encore au Parlement. Donc, du coup, ça pose quand même un problème.
Haroun Kabadi, président de l'Assemblée nationale, est conscient du débat peu démocratique qui pourrait découler des discussions du 30 avril prochain pouvant aboutir à l'adoption de cette nouvelle loi fondamentale.
Je relève pour le déplorer que certains de nos collègues députés de l'opposition ont refusé systématiquement de prendre part aux travaux de la commission spéciale mise en place en vue de procéder à l'examen de ce projet de loi constitutionnelle. Je les invite humblement à se joindre à leurs collègues députés pour un débat serein sur le dit projet de loi constitutionnelle.
Déjà, lundi dernier, le secrétaire général de la primature a, dans une note de service, demandé aux différents responsables chefs de service de faire l'inventaire dans les détails tous les biens mis à leur disposition. Une note de service qui panique le personnel de cette institution jugée budgétivore qui sera mise en chômage au seuil de cette 4e République. André Kodma-Djingar N'Djamena, VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena. C'est 93.1 FM au Tchad.
Au Sénégal, les députés ont adopté hier une nouvelle loi électorale dénoncée par l'opposition qui a fait état de dizaines d'arrestations lors de manifestations réprimées au moyen de gages lacrymogènes. Marie Benson a contacté François Patuel, le chercheur sur l'Afrique de l'Ouest à Amnesty International, qui s'est exprimé sur le droit de manifester au Sénégal.
Ce qui est préoccupant, c'est que les autorités ont justifié l'interdiction sur la base d'un décret qui date de 2011 et qui interdit toute manifestation dans certaines zones du centre-ville. Pour nous, c'est une interdiction qui est excessive puisque les gens devraient pouvoir manifester de manière pacifique à une distance raisonnable des institutions qu'ils ciblent dans leurs manifestations.
Est-ce que vous pensez que cette interdiction est légale ?
Eh bien, pour nous, c'est une restriction qui est excessive et arbitraire. Le Sénégal peut, dans certaines situations, restreindre la liberté de rassemblement pacifique, mais il doit pour ça pouvoir le motiver sur une base légale et en fonction de critères fixés par les standards internationaux. L'interdiction pure et simple de toute manifestation dans une zone donnée, c'est excessif.
Mais il y a eu des violences aussi des deux côtés, sachant que des manifestants ont lancé des objets sur une voiture de police, je crois.
Ce que j'ai pu voir, c'est certains groupes qui essayaient de se regrouper aux alentours notamment de l'Assemblée nationale, qui étaient dispersés automatiquement à coup de gaz lacrymogène envoyés sur des gens qui ne faisaient pas forcément partie de la manifestation. Comme la manifestation a été interdite, qu'il y avait un déploiement des forces de sécurité déjà très tôt le matin, en fait, il n'y a pas eu un endroit où il y a eu beaucoup de gens, mais plutôt une dispersion des manifestants dans toute la ville qui essayaient de se regrouper. Et du coup, il était difficile de pouvoir identifier un lieu de manifestation. Et les forces de sécurité utilisaient, dès qu'il y avait un petit attroupement à un coin de rue, des gaz lacrymogènes. Peut-être juste pour mentionner qu'il y a également eu au moins 5 arrestations, 3 militants de l'opposition qui ont été arrêtés et 2 membres du groupe Yamamar qui ont été arrêtés. Donc voilà, en plus de l'utilisation de la force pour empêcher les manifestations, il y a également eu plusieurs arrestations. On essaye de mieux comprendre un petit peu les conditions de ces arrestations et ce qui les a motivées.
François Patuel, chercheur sur l'Afrique de l'Ouest à Amnesty International, joint à Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
À Bukavu, dans l'est de la République démocratique du Congo, pour pallier le manque d'électricité dans cette région, 4 jeunes électroniciens et électriciens ont décidé de créer une entreprise Kwanza Technology. Ils recyclent les composants électroniques tirés de vieux ordinateurs et téléviseurs qu'ils ramassent dans les décharges de la ville pour produire des lampes torches à grande autonomie. Notre correspondant Ernest Muhero les a rencontrés.
Fraîchement sortis de l'université, ces jeunes de Bukavu fouillent régulièrement les décharges publiques à la recherche des composants électroniques et d'objets plastiques déclassés.
On a vu l'insalubrité grandissante dans la ville de Bukavu. Nous nous sommes dit être bons à pallier à ces problèmes et tous nos circuits qu'on fait, on incorpore ça dans les déchets plastiques qu'on récupère ici, notamment les bidons.
Ces 4 génies de Bukavu ont décidé d'unir leur savoir en électricité et en électronique pour fabriquer des lampes torches et apporter leur contribution à la solution du problème de l'électricité.
On reprend ce qui est encore utilisable, comme les condensateurs, les transistors, et puis on les rassemble pour construire les circuits qu'on utilise dans beaucoup de nos torches. Et la spécificité de la torche est que ça a une autonomie de 7 à 10 jours, mais on a été bloqué dans beaucoup d'aspects, comme manque de machines, comme l'imprimante 3D pour faire des formes pour le box de nos circuits, pour emballer bien nos produits.
L'aventure commence en 2015, quand ces jeunes créent leur laboratoire baptisé Kwanza Technology. Là, ils travaillent jour et nuit à fabriquer sur commande des torches à grande autonomie, équipées d'un dispositif de recharge pour les téléphones portables.
En créant Kwanza, l'idée vraiment était vraiment de faire quelque chose dont les autres n'ont jamais fait. Et effectivement, c'est ce qu'on a fait. On a commencé par fabriquer des torches et on est allé jusqu'à faire des convertisseurs, des amplificateurs de son et d'autres petits circuits. Les besoins sont grands. On a commencé à produire une torche par jour. Mais pour le moment, on vend jusqu'à 2 torches le jour. On termine juste à faire une torche, il y a directement un client.
Vu le peu d'électricité dans la région, les habitants de Bukavu saluent cette initiative qui améliore leur quotidien.
Auparavant, nous achetons les torches au marché, mais ça fait un jour seulement et puis c'est épuisé. Mais les torches qu'ils fabriquent ici à Bukavu, ça nous aide beaucoup.
Avec un petit budget de départ, moins de $500, les génies de Bukavu font des merveilles.
De Bukavu, Ernest Muero, VOA Afrique.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Bukavu sur 97.4 FM.
Suite de la visite du cardinal Torrent en Arabie Saoudite, le président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux a plaidé pour davantage de liberté religieuse. Pour en savoir plus sur ce voyage inédit, Claire Morin-Gibourg a joint Nasser Ouedadi de l'American Islamic Center à Boston.
Je pense qu'en Arabie Saoudite, le changement qu'on est en train d'observer est opéré par le prince Mohammed bin Salman. Il s'agit plutôt de limiter l'influence de l'établissement wahhabiste ou l'influence cléricale de cette tendance-là, en particulier à freiner l'exportation de l'idéologie et limiter le financement jusqu'alors qui était très important aux juridictions étrangères un peu partout dans le monde.
Concrètement, ça se traduit comment ?
Ça se traduit par des mesures très concrètes, ça veut dire la limitation du financement et surtout la subjugation totale de ce mouvement à la volonté de l'État et en leur expliquant que les choses ont changé et que le prince héritier est partisan d'un islam plus ouvert et tolérant, en particulier vers la composante chiite du royaume et au-delà des frontières. En très concret, c'est que certains des prêcheurs ou des prédicateurs des pays radicaux ont été mis en arrêt de façon un peu autoritaire. Mais en général, on est en train d'observer un changement capital et qui est en contradiction totale avec la direction que le royaume avait pris après les attaques à la mosquée sainte de la Mecque en 1979. Où ce que les spécialistes appellent le moment Jaiman al-Thani, la radicalisation des élites religieuses de l'Arabie Saoudite et surtout la crainte de la famille royale de voir une contagion de la révolution iranienne qui était un mouvement théocratique, ce qui les a forcés à ouvrir les portes grandes ouvertes à l'établissement wahhabi.
Est-ce que le déplacement du cardinal Torrent vous a surpris ?
Non, je ne suis pas du tout étonné parce que les Saoudiens ont embarqué sur une politique d'ouverture et de dialogue avec toutes les religions, la religion catholique, la religion juive. C'est un effort concerté pour justement changer de direction et envoyer un signal que l'Arabie Saoudite est en train de changer. Par contre, en revanche, je n'irai pas aussi loin que dire qu'on verra la liberté religieuse demain en Arabie Saoudite, mais on dira que moi je dirais plutôt qu'on verra une amélioration nette par rapport à l'ère passée.
C'était Nasser Ouedadi de l'American Islamic Center à Boston.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons de la nutrition comme facteur clé dans le traitement des personnes vivant avec le VIH-Sida.
Un corps bien nourri supporte mieux les médicaments. Malheureusement, de nombreux patients abandonnent le traitement du fait d'une mauvaise alimentation.
Pour en parler, nous recevrons le docteur Jacques Nzouké, médecin généraliste à la polyclinique Recherche Santé Plus en RDC. Il nous dira tout ce qu'il faut manger et comment associer l'alimentation et la prise des ARV.
Nous écouterons les témoignages de deux personnes vivant avec le VIH ainsi que celui d'un responsable ONG. Ils nous raconteront quelques cas pratiques de personnes sous traitement.
Votre santé, votre avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Salut les amis, Roger Moutou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h, temps universel, dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 26 33. C'est au 001 202 205 26 33. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
d'aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console d'Ariel Smith, merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.